Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 5h54, 53 avant minuit, vous êtes sur Syllab. Toujours en direct du salon, un blocus de la fac oblige. Quelques petits mots parce qu'il y a beaucoup de choses à gagner en ce moment. Des jeux concours pour Mythos qui commencent dès ce vendredi. Vous pouvez gagner une place pour le concert de Flavia Coelho et Fada Freddy. Ça, c'est le dimanche 30 mars à 21h au Cabaret Botanique. Pour ça, vous avez besoin d'un mot de passe Brésil. Mais attendez, parce qu'il y a plein de mots de passe. Il y a aussi une place pour le concert de Théa dimanche 30 mars à 18h aussi au Cabaret Botanique. Là, le mot de passe, c'est Comet, comme le titre de son dernier EP. Et puis, toujours pour Mythos, Synapson, Julien Granel, The Avener, ça se passe le lundi 7 avril à 19h30 au Liberté. Cette fois, là aussi, vous pouvez gagner une place. Et le mot de passe, c'est Alexandre et Paul, les prénoms des membres de Synapson. Et puis, il y a toujours le concours pour le spectacle Par d'autres voix d'André Sénatoré au Triangle, qui est en cours aussi. Ça, c'est le jeudi 3 avril et le mot de passe, c'est Feu. Voilà, vous savez tout, j'espère que vous avez pris des notes. On enchaîne, c'est le flash de Cyriane.
Un journaliste d'Al Jazeera et un employé de télévision tués dans la bande de Gaza, l'hôpital de Khan Younes frappé, 730 Palestiniens et Palestiniennes assassinés et l'ordre de déplacer des milliers de civils à Rafah. Voilà le bilan d'Israël au cours des quelques 6 derniers jours de reprise des frappes en Palestine après la fin d'un maigre cessez-le-feu. Et ce, en plus des attaques menées sur la Syrie et le Liban. La chef de la diplomatie européenne a affirmé qu'il fallait réinstaurer le cessez-le-feu, assurer la libération de tous et toutes les otages et reprendre l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza avec l'objectif d'un cessez-le-feu permanent, expliquant que l'UE peut aider en réinstallant la mission européenne de contrôle du point de passage de Rafah ou en fournissant plus d'aide humanitaire. Au total, depuis le 7 octobre 2023 seulement, le gouvernement israélien a causé la mort de 50 082 personnes dans l'enclave palestinienne uniquement. 1133 suspects ont été arrêtés en Turquie dans le cadre d'activités illégales menées entre le 19 et le 23 mars 2025. Voilà la dernière annonce datant d'aujourd'hui du ministre de l'Intérieur turc Ali Yerlikaya sur X.
6 jours, entre le mercredi 19 mars et aujourd'hui. Et pour le 6e jour consécutif, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Turquie et devant l'hôtel de ville d'Istanbul. Chaque jour, de nouvelles interpellations de manifestants par les autorités turques sont recensées. Un des manifestants, Föson, un procureur à la retraite, déclare à France Info « Nous sommes là pour que le combat ne s'arrête pas. Je souhaite que l'on retrouve un régime parlementaire. Tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires se sont retrouvés dans la main d'un seul homme. L'homme envers qui leur colère est dirigée, le président turc Recep Tayyip Erdogan. »
Et pourquoi lui alors ?
Pour comprendre, remontons au premier jour des manifestations, à mercredi dernier, 7h du matin. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est arrêté chez lui par la police turque pour soupçon de corruption et de soutien à une organisation terroriste. À ses côtés, 106 élus, patrons de chaînes de télévision et journalistes sont arrêtés avec lui. Ekrem İmamoğlu appartient au Parti Républicain, ou CHP, et représente le principal opposant au président turc Erdogan, qui lui fait partie de AKP, ou du Parti de la Justice et du Développement. Dans la nuit de samedi à dimanche, le leader de l'opposition ainsi que 80 de ses co-accusés ont été reconnus coupables de corruption et non coupables pour le motif de soutien au terrorisme. Le juge a ordonné hier la suspension des fonctions et l'incarcération immédiate de Ekrem İmamoğlu. Mais pour le CHP, le Parti républicain turc, ce n'est pas la fin. Hier matin, quelques heures après la mise en prison de leur leader, une élection primaire s'est tenue pour désigner le candidat du parti pour les prochaines élections présidentielles. Et ce matin, un porte-parole du parti a déclaré à l'AFP que c'est Ekrem İmamoğlu qui est officiellement désigné pour représenter le parti aux présidentielles prévues en 2028.
Et comment y réagissent les autres pays face à cette escalade de tensions, Eva ?
Beaucoup se mettent d'accord pour dire que l'incarcération du maire d'Istanbul, mais aussi l'emprisonnement de politiciens et manifestants de l'opposition représentent des atteintes, je cite, atteintes graves à la démocratie, comme l'a déploré la diplomatie française et allemande. Guillaume Mercier, porte-parole de la Commission européenne, a exprimé aujourd'hui le souhait que la Turquie reste ancrée à l'Europe, mais selon lui, cela passe par un engagement clair en faveur des normes et des pratiques démocratiques.
10 nouveaux journalistes turcs, dont un photographe de l'AFP, ont été interpellés à leur domicile aujourd'hui à Istanbul et Izmir, selon l'Association turque de défense des droits humains, MLSA. Merci Eva pour ton papier. 15 000, après un décompte des Nations Unies fourni ce lundi, c'est le nombre de familles déplacées en 48 heures durant la nuit de jeudi à vendredi dans la région soudanaise en guerre de Darfour Nord. Et ce, à la suite d'affrontements dans la ville d'Alma Mala entre paramilitaires, des forces de soutien rapide FSR et l'armée épaulée par ses alliés. Depuis avril 2023, le Soudan est traversé par une guerre pour le pouvoir entre ces deux clans. L'armée contrôlant le nord et l'est du pays et les FSR la quasi-totalité du Darfour à l'ouest et certaines parties du sud. Au total, ces combats ont fait des milliers de morts, déraciné plus de 12 millions de personnes et provoqué l'une des plus grandes crises de faim et de déplacement au monde. Début mars, l'Organisation internationale pour les migrations avait annoncé que près de 400 000 Soudanais et Soudanaises étaient rentrés chez elles et eux dans, je cite, les zones reprises par l'armée aux paramilitaires. En route, mauvaise troupe. L'État a fait appel de la décision prononcée en février de la justice administrative allant à l'encontre de la poursuite du chantier de l'A69. Autoroute devant relier Toulouse et Castres. C'est donc ce qu'a annoncé ce lundi l'AFP dans une dépêche. Dans un communiqué, lui, le collectif écologiste La Voie Libre, opposé depuis 2023 contre le projet, a fustigé, je cite, « un État s'acharnant contre l'intérêt du territoire ». De fait, en poursuivant sa fuite en avant avec cette procédure d'appel, l'État condamnant à l'immobilisme tout un territoire et lui interdisant de se projeter vers l'avenir. En tout, lorsque terminé, selon la préfecture du Tarn, les travaux devaient affecter 420 hectares, dont 316 hectares de terres agricoles, entraînant également la destruction de milliers d'arbres et de vastes zones boisées. Harcèlement et traque de plus de 4 mois. Voilà ce qu'a subi Shaïnès Daoud avant de se faire poursuivre puis tirer 2 balles dans les jambes puis brûler vive en plein jour devant chez elle à Mérignac par son ex-mari Mounir Bouta, dont le procès s'ouvre aujourd'hui pour assassinat devant la cour d'assises de la Gironde. Avant le meurtre, l'homme avait déjà été en prison après une condamnation pour des faits de strangulation et de menaces avec un couteau sur son épouse. Il en était sorti en 2020, leur vie commune avait par la suite repris, avant que Shaïnès ne reporte plainte et se sépare de l'homme 2 mois auparavant. Sa plainte avait été mal enregistrée par un policier, tout juste condamné lui-même pour violence conjugale, privant donc la femme de téléphone grave danger et Mounir Bouta de bracelet anti-rapprochement. Shaïnès Daoud était mère de 3 enfants. Les 2 grands-parents sont venus en Gironde s'occuper de leurs 3 petits-enfants âgés aujourd'hui de 16, 11 et 8 ans après le décès de leur fille. La famille a également lancé une procédure pour faute lourde contre l'État cette fois-ci. Depuis le début de l'année 2025, ce sont 30 féminicides qui ont été décomptés par le collectif Nous Toutes. Prime Ségur pour tous, telle est la revendication de l'intersyndicale de l'association rennaise PEP Pretty l'Armor, gérant notamment des établissements dans le domaine social, médico-social et le secteur politique, éducatif, vacances, loisirs et culture. L'organisation, auprès de 600 salariés répartis dans 27 établissements entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor, dénonce notamment une égalité de versement de la prime Ségur entre salariés, certains et certaines, ne la touchant pas alors que ça devrait légalement être le cas selon l'intersyndicale. Pour rappel, cette prime a été mise en place par le gouvernement en 2020 et promet une meilleure valorisation des salaires du personnel soignant, principalement dans les hôpitaux. En 2024, l'application de cette prime a été étendue à tous les établissements dès lors qu'ils relevaient du champ d'application de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. Rendez-vous donc demain à 14h devant le siège de l'association PEP Pretty l'Armor au 115 boulevard Albert 1er à Rennes si vous souhaitez les soutenir ou en apprendre plus sur la question. Mythos, ça commence dès vendredi à Rennes. Héloïse a tendu son micro à Émilie Audrin, directrice du festival, qui nous a dit quelques mots sur la programmation de cette 28e édition.
une nouvelle surprise au Tabor, puisque un nouveau lieu dans le théâtre de Verdure va voir le jour. Il y a des travaux en fait, au Tabor, donc on ne peut plus utiliser la scène 17 qui était un espace de gratuité, on ne peut plus l'implanter. Donc du coup, on a imaginé un chapiteau immersif, donc avec une projection vidéo en 360 et de la musique. Et l'idée, c'est d'être vraiment sur une programmation pendant 10 jours sur un espace de gratuité dans cette tente qui s'appelle l'espace 360. Cette année, on a eu envie de s'adresser encore plus largement à toutes les personnes, toutes les générations. Moi, j'ai envie de vous proposer en tout cas des spectacles qui donnent envie d'aller au théâtre. Donc, il y a un projet qui s'appelle Heimweh, ça veut dire mal du pays en allemand. Et c'est un jeune metteur en scène suisse qui vit en Belgique qui nous propose quelque chose de complètement absurde. C'est un regard sur son pays, sur la Suisse. C'est à la fois très, très drôle. Donc, c'est au Théâtre de la Paillette pendant 2 jours. Et puis, en musique, un petit coup de cœur pour une soirée avec notamment Théodora, qui est une chanteuse de Vitré, dont on entend beaucoup parler, mais que je n'ai pas encore vue sur scène. Et on a composé une soirée à 3 spectacles. Donc, ce sera le vendredi 3 avril.
Et Théodora, la Big Boss Lady, sera accompagnée de Saint Graal et Iseult pour cette soirée de concert. Quant à nous, nous serons en direct de Mythos sur un plateau spécial le jeudi 3 avril de 16h à 18h, en compagnie de nos radioconsœurs, Radio Laser, Fréquence 8, Plume FM et Quartier des Ondes. Ne manquez pas ça. Et merci Héloïse pour ce micro-reportage évidemment. Avis aux gourmands et aux gourmandes, ce mercredi 26 mars, un chef étoilé va venir nous faire découvrir ses recettes les plus franchouillardes. Et ce n'est nul autre que, faites vos paris, attention.
Philippe Etchebest.
C'est raté. Merde. Mais ça reste du top chef, c'est parce que c'est Jean-François Piège qui vient pour son livre « Encyclopédie culinaire des territoires de France ». Alors, chers chefs cuistot et cuistotes, rendez-vous à l'espace Ouest France à 19h. Et sinon, plutôt dans l'après-midi, à 14h, aura aussi lieu un échange autour de l'importance de l'eau. À la table, Julie Wau, illustratrice de la BD « L'urgence de l'eau », en quête de la source. Et Philippe Chérel, président du comité UNICEF Bretagne. Les 2 événements sont sur réservation, alors si vous souhaitez vous y rendre et donc avoir plus d'informations, et ben rendez-vous sur le site de Ouest France.
Merci Cyriane pour ce flash. On passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pull jaune, jeans bleu, basket verte et un foulard avec toutes ses couleurs, c'est Camille Planex, responsable de la communication du Joli Collectif et du Théâtre de l'Air Libre, en face de moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et pull gris floqué, human race, jeans noir et du vernis rose fleuri. Très beau, pas hein. C'est Iaorana Nelson. Stagiaire en communication à l'Air Libre, qui est aussi en face de moi. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous êtes ici pour parler du bal hashtag 2 qui va se passer à l'Air Libre. Donc, qu'est-ce que cet événement ?
Alors, cet événement, c'est un temps fort réservé aux jeunesses. Donc, c'est avec grande joie qu'on ouvre tout un tas de propositions autour de l'adolescence et des adolescences, à partir de 10 ans jusqu'à 99 ans, parce qu'on peut être adolescent toute notre vie, si on le souhaite. Et on propose en fait sur 3 jours du théâtre, de la danse, des concerts, et même le samedi, une journée réservée aux adolescents avec ateliers DJ, tournoi de baby-foot et on termine avec un spectacle et un DJ set. Voilà.
Et qu'est-ce que la structure de l'Air Libre qui accueille, enfin qui fait ce festival donc ?
Ben, l'Air Libre, c'est donc le théâtre de la ville de Saint-Jacques qui est aujourd'hui géré depuis janvier 2023 par le Joli Collectif qui établit une programmation mêlant effectivement théâtre, danse, musique, le tout quand même axé sur des sujets de société. Et là, c'est la 2e édition de Bâle qui a été inaugurée l'année dernière.
Est-ce que donc pour cette hashtag 2e fois, vous avez fait différemment que la 1ère édition pour aborder par exemple la programmation ? Est-ce que
Alors oui, il y a des choses assez différentes. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était vraiment plus tourné effectivement autour du corps, alors que là, on est plus sur des chemins. D'adolescence, quoi, des chemins, des parcours de vie. Il y a entre Rebecca Chaillon, Sylvie Balestra, et les trois spectacles et les trois soirées, et Forbon, et Zaki Mouena et Adam Karpels, c'est trois itinéraires. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs itinéraires dans ces spectacles, mais c'est trois manières de parler d'itinéraire et de transformation, et de qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait des choix, ou est-ce qu'on n'en fait pas, mais est-ce que ces choix déterminent ou pas l'avenir, est-ce qu'on va contre des présupposés de nos familles, ou voilà, c'est tout ça.
Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix de thème, donc l'adolescence, les jeunesses, pourquoi ce thème-là?
Parce que c'est vrai que c'est une thématique qui finalement est pas si courante comme thématique de festival, et puis mais ça permettait aussi de mettre un coup de projecteur sur des récits qui existent en fait et qui sont dans plein d'œuvres, mais de les rassembler et de pouvoir se dire tiens, on va par ce moment-là pouvoir accéder à divers récits et diverses propositions autour de l'adolescence, à savoir que les adolescents, c'est peut-être le public le plus difficile, donc qui soit à faire venir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait venir des adolescents, est-ce qu'on s'adresse à leurs parents, à partir d'un certain moment ils n'ont plus envie de venir dans les théâtres, donc comment est-ce qu'on fait, donc c'est aussi un petit challenge pour nous que de lancer ce type de programmation, on est d'accord.
Et donc on va se pencher sur les récits, donc c'est sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi qui arrivent.
Ouais.
C'est bien ça. Et donc on commence le jeudi avec donc un spectacle, comme vous m'avez dit, qui est complet, mais tout de même, qui faut en parler, plutôt vomir que faillir.
Voilà.
Qui est aussi donc penché sur l'adolescence, qui nous fait plutôt vomir. Est-ce que c'est ça un peu le thème?
Ça se passe dans le self du collège, et on va du coup suivre 4 récits d'adolescents et d'adolescentes qui sont des adultes au plateau, qui vont parler de leurs récits d'adolescence. Mais peut-être tu veux compléter, Yao ?
Oui, c'est ça. La particularité, c'est que le spectacle, il change en fonction des interprètes, parce qu'il est inspiré de leur propre parcours. Donc ils reviennent sur des thématiques qui ont été au centre de leur propre adolescence. Et plutôt vomir, parce que c'est vomir ses émotions, vomir tout ce qu'on ressent pendant ces années un peu compliquées parfois.
Et après on passe sur vendredi et les rites de passage de Sylvie Balestra, qui est un spectacle consacré à la danse, danse dribblée, qui est aussi donc sur le thème de la mue. Vous utilisez pas mal ce mot de mue aussi entre enfants, ados, adultes. Est-ce que vous pouvez aussi développer sur cette activité?
Pendant le spectacle, du coup, Janice Bielleux, l'interprète, se part justement d'attributs, on ne va pas trop en dire, mais d'attributs liés à une question de transition. Donc c'est pour ça qu'il y a une question de mue, parce que c'est un espèce de changement de peau. Comment est-ce qu'on se transforme? Et là, c'est vrai que c'est le rituel du football, enfin en tout cas le dribble, qui est mis à l'honneur. Ce spectacle, il a été créé à l'automne, on ne l'a pas vu, donc on le programme sans l'avoir vu, mais c'est une metteuse en scène qui est assez connue et plutôt chorégraphe d'ailleurs, pour d'autres propositions aussi autour de l'adolescence. Et peut-être tu veux compléter par rapport à un rite de passage?
L'idée, c'était de remettre au centre du spectacle cette idée de rite de passage auquel on pense de façon plutôt religieuse, c'est désormais, et qu'en fait, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence au jeune adulte, c'est un chemin très abstrait dans lequel on est assez peu accompagné. Et donc là, avec son ballon, elle fait son propre rite de passage justement sur scène toute seule.
Et il y a deux séances aussi, c'est bien ça, de
rite de passage.
Je
non,
je crois qu'il y en a une matin.
Il y en a une. Moi, c'est pour les scolaires.
Ah.
On a une séance réservée pour justement les élèves qui peuvent plus rarement venir en soirée, en tout cas avec l'école. Donc là, ça permet de vraiment toucher les adolescents, de les ramener au théâtre.
Et samedi, on continue encore avec l'AMU, puisque tu meurs de Forbon Enzaki Mouena et Adam Carpens à 20h30, qui est... Donc là, c'est un récit qui est rappé, c'est bien ça?
Ouais, là, c'est le rap qui a l'honneur. Donc, rap et conte, il ne fait pas que de rapper dans le spectacle. Et surtout, la musique, elle est créée en live. Donc, on n'a pas eu de morceaux avant à diffuser. Donc, on va découvrir en même temps que le...
Pas mal de surprises.
C'est ça, exactement. et en fait, Tumeur, on suit deux enfants sur une décennie, donc de leurs 8 ans à leurs 18 ans. Pareil, ce chemin, le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à devenir adulte, en posant les questions de s'affranchir des attentes de notre entourage, familial particulièrement à cet âge-là, trouver ce qui nous convient, trouver nos passions, sans prendre en compte ce qui plairait plus à nos parents, nos familles, tout ça. Et essayer de se trouver soi-même, se faire entendre et nous-mêmes s'écouter nous-mêmes, avec au centre, encore une fois, ce sentiment d'estime de soi-même, d'être capable de reconnaître sa valeur, de croire en ses capacités et en ses capacités de savoir affronter des situations particulières, ce qui se dresse à nous pendant ces années-là.
Et avant ça, donc ça c'est à 20h30,
ça.
Samedi, et à 18h il y a le Dance Orchestra de Marzina Kreminska et Simon Tanguy, et le Collège Jean Moulin aussi.
C'est ça.
Donc ouais. C'était ça a été créé ensemble avec le collège, c'est bien ça?
Oui, ouais, il y a eu, je sais pas, 10 demi-journées entre les collégiens, donc de la classe de 5e E, du collège Jean Moulin et les deux chorégraphes, et ils vont nous restituer tout ce travail qui correspond à une semaine de travail en fait, et de transmission autour de qu'est-ce que c'est qu'une danse de groupe qui pourrait être une danse de concert qui pourrait être de groupe. Donc ils ont une partition à interpréter, et chacun va interpréter les gestes chorégraphiés proposés par les chorégraphes. Et c'est une collaboration donc en fait entre effectivement les chorégraphes et le groupe rennais qui s'appelle Hush, voilà, que vous connaissez peut-être. Et donc c'est sur leur musique qu'ils dansent. Voilà.
J'ai pas parlé d'ailleurs, mais il y a aussi donc deux soirées. Enfin, il y aura un concert le jeudi de Mélodie Loret, c'est bien ça, qui fait aussi partie du spectacle plutôt Vomir que Faillir. Et samedi, il y a un DJ set le soir, aussi présenté par, fait par d'autres intervenants.
C'est Forbon, Enzaki Mouena et Adam Carpels qui reviennent après le spectacle pour continuer la soirée et faire l'after. Et du coup, DJ set et concert de leur propre création, ouais aussi.
Ouais, en gros, a priori, le spectacle va finir par déborder et ne plus jamais s'arrêter, quoi. Et après, ils passeront derrière les platines et tout ça. Alors que le jeudi soir, ouais, c'est Mélodie est interprète. Et là, ce sera plutôt piano-voix dans le hall de l'air libre. Voilà, ça risque d'être assez chouette.
Et les événements, ils sont gratuits. Enfin, il y en a, ils sont gratuits. Et...
Ouais. Les afters, donc Mélodie Loret, et l'after du samedi est gratuit. Danse orchestra avec le collège Jean Moulin, sur réservation par contre celui-là. Et après, ben, toute l'après-midi d'accueil et de jeu du samedi à partir de 16h, qui est gratuite, libre d'accès. Voilà, on a un petit tournoi de baby-foot qui se prépare. Des jeux de société à disposition aussi pour ceux qui sont là. Et un atelier DJ pour 4 personnes sur inscription aussi. Voilà, découvrir un peu les bases du DJing, quoi.
Et on a un tarif aussi assez petit, c'est-à-dire le tarif en bande. Quand on vient avec 2 adultes et 2 jeunes de moins de 26 ans, c'est 8 euros la place, sachant que les tarifs aussi pour les étudiants et étudiantes sont quand même assez bas aussi, c'est-à-dire c'est 8 euros. Ouais. Voilà. Et carte sortir, 6,50 euros. Voilà, pour c'est les tarifs.
Et donc, pendant cette deuxième édition, donc c'est centré plus sur les jeunesses, dédié aux jeunesses, comme vous l'avez dit, vous êtes en collaboration avec le collège Jean Moulin. Est-ce que vous aviez déjà fait des collaborations, des partenariats avec des groupes scolaires, des collèges, c'est nouveau?
Non, l'année dernière aussi, effectivement, on était en lien avec le lycée Théodore Monod d'Ureux. Et il y avait eu une restitution aussi d'un... Là, c'était plutôt théâtre, alors que là, c'est danse. D'une semaine de travail entre Enora Boel et Johanna Rocard, qui sont 2 artistes aussi, et les lycéens du lycée Théodore Monod d'Ureux. Et pour l'année prochaine, l'idée, c'est de pouvoir constituer un groupe d'adolescents et d'adolescentes sur toute la saison, et donc de terminer avec balle comme point d'orgue, en fait, et d'avoir un petit groupe qui rentrerait aussi dans la programmation et qui inventerait avec nous qu'est-ce que ça peut être que le bal 3e édition, quoi.
Hashtag 3. Voilà. Enfin, ma dernière question, c'était, y aura-t-il une 3e édition? Donc, je suis contente de l'apprendre que oui. mais donc, pour rappeler les informations, c'est jeudi, vendredi et samedi à l'air libre. Pour avoir tous les détails de la programmation, il y a le site de l'air libre, j'imagine, et du joli collectif.
Ouais, c'est ça. Les réseaux aussi, Instagram, normalement, on a tout mis. on a réussi à tout mettre. Tout est dessus, les horaires, ce qui est gratuit, ce qui est sur réservation, tout est...
Est-ce qu'il reste pas mal de place, ça va?
Bah plutôt sur le samedi, puisque c'est vrai que le jeudi c'est complet. Le vendredi, ben, il n'y a plus que 9 places, donc ça ne va pas tarder à l'être. Et voilà.
Donc allez-y.
Ouais. Hein. Venez, on vous attend.
Et bah, merci beaucoup.
Merci à vous. Beaucoup.
6 heures avant minuit.
C'est lundi, et le lundi, dans 6 heures avant minuit, c'est décryptage fake news. Ce soir, c'est avec Aglaé qui va nous parler statue de la liberté, il me semble.
Exactement. La statue de la liberté, donc vous en avez toutes et tous certainement déjà entendu parler.
A priori.
A priori. Alors pour vous la faire courte, elle a été offerte en 1886 par les Français et Françaises aux Américains et Américaines pour célébrer la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage qui s'en est suivie. Jusque-là, tout va bien, mais peut-être que dernièrement, vous avez eu vent de son potentiel retour en France et que, malheureusement pour vous, vous vous êtes fait et faites berner.
Quoi ?
Heureusement que t'es là.
En fait, depuis quelques jours, sur tous les réseaux sociaux, court la rumeur que Donald Trump aurait déclaré « Vous pouvez récupérer votre petite statue et nous prendrons simplement toutes les parties de la France que nous avons dû garder pour vous. La France peut garder chaque centimètre carré de terre que vous, les Français, n'avez pas abandonné aux nazis. C'est très généreux, vraiment une affaire formidable. » Mais le président des États-Unis n'a jamais dit ça, tout comme il n'a jamais dit « nous pourrions vraiment faire de la France quelque chose de bien » ou encore à propos de la statue de la liberté. « Je n'ai jamais beaucoup aimé cette statue de toute façon. Lady Liberty, beaucoup de gens l'ont fait, mais pas moi, elle n'était pas mon genre. » Toute cette grande blague a été en fait orchestrée par The Babylon Bee, à la fois avec un tweet publié le 19 mars et vu par près de 480 000 personnes et un article publié le jour même sur son site internet. En fait, The Babylon Bee est un journal satirique, on le comprend notamment grâce à sa description sur X, à savoir « The fake news You Can Trust. Comprenez les fake news auxquelles vous pouvez vous fier.
Bien sûr. Tout est logique là-dedans.
Tout est logique. Et l'article de ce journal, ajouté 15 guillemets à ce mot, se termine en disant que Donald Trump a promis de transformer la France en Côte d'Azur ou Riviera de l'Europe. Une façon ironique de faire référence aux propos de Donald Trump concernant son projet de faire de la bande de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Pourtant, bien que cette source soit donnée dans certains postes comme celui de Michael Jacquot, un internaute suivi par près de 63 000 personnes et vu plus de 42 000 fois, l'information est considérée comme vraie. Mais c'est faux. Certaines et certains s'amusent aussi à dire que la France deviendrait de cette façon le 52e État des États-Unis après le Canada. Mais vous vous demandez peut-être comment est-ce que The Babylon Bee a inventé toute cette histoire.
Oui.
En fait, je vais te donner une réponse, t'inquiète.
Merci Jeanne.
Tout part d'une déclaration de l'eurodéputé Raphaël Glucksmann le 16 mars. Je cite « Nous allons dire aux Américains qui ont choisi de basculer du côté des tyrans, aux Américains qui virent les chercheurs pour faire preuve de liberté scientifique, rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau, mais apparemment vous la méprisez, alors elle sera très bien ici, chez nous. » Et la Maison Blanche, par la voix de sa porte-parole Caroline Leavitt, n'a pas perdu de temps pour répondre de façon plutôt crue. Je cite « Mon conseil à ce politicien français anonyme de bas étage serait de se rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand à l'heure actuelle. Il devrait être reconnaissant envers notre grand pays. » Raphaël Glucksmann est assez rapidement revenu sur ses propos, expliquant dans une série de tweets qu'évidemment, la statue de la liberté appartient aux États-Unis. Il a également remercié les soldats américains pour leur action pendant la Seconde Guerre mondiale, les qualifiant de héros contre des tyrans, des ennemis du fascisme et pas des ennemis de Poutine, en référant à l'actuel conflit russo-ukrainien. Une chose est sûre, la statue de la liberté n'est pas prête de quitter la baie de New York en attendant. Vous pouvez toujours admirer les répliques, notamment à Paris.
C'est vrai, merci beaucoup Aglaé. On vérifie les messages sur notre répondeur vite fait.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Vide. Vide. Laissez-nous un message vocal. On n'en a pas ce soir. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Vous pouvez nous faire passer un message, nous donner des idées de sujets, faire un retour sur nos interviews, nos reportages. Les blagues carambars, par contre, c'est pas la peine. Hein. Merci beaucoup, Timothée, pour la technique. Et puis à demain dans le salon de la directrice de Syllab. Yeah.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du Dôme.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.